Chapitre 9. Son Excellence le duc d'Olivares. Cependant, Dubois, en quittant le chevalier, admirait, comme il avait déjà eu si souvent l'occasion de le faire, le hasard providentiel qui lui mettait encore une fois entre les mains tout l'avenir du régent et de la France. En traversant la salle commune, il reconnut l'éveillé qui causait avec Tapin et lui fit signe de le suivre. C'était l'éveillé, on se le rappelle, qui avait été chargé de faire disparaître Levrault et la Jonquière. Arrivé dans la rue, Dubois s'informa avec intérêt de ce qui était devenu le digne capitaine. Dûment garrotté et bâillonné, il avait été conduit au donjon de Vincennes pour ne gêner aucune des manœuvres du gouvernement. Il y avait à cette époque une manière de système préventif admirablement commode pour les ministres. Éclairé sur ce point important, Dubois continua son chemin tout pensif. Dubois commença par s'informer de l'endroit où était le régent et de ce que faisait le régent. Le prince était dans son cabinet, non pas d'affaires mais de travail, non pas de régent mais d'artiste, achevant une gravure à l'eau-forte préparée par Humbert, son chimiste, lequel, à une table voisine, embaumait un ibis par le procédé des Égyptiens qu'il prétendait avoir retrouvé. En même temps, un secrétaire lisait au prince une correspondance dont le chiffre était connu du régent seul. Et tout à coup, la porte s'ouvrit, au grand étonnement du régent, dont ce cabinet était le refuge, et d'une voix sonore, l'huissier annonça « Monsieur le capitaine de la Jonquière ». Le régent se retourna. « La Jonquière, dit-il, qu'est-ce que cela ?» Humbert et le secrétaire se retournèrent, étonnés qu'on introduisît un étranger dans leur sanctuaire. Au même moment, une tête pointue et allongée, assez semblable à celle d'une fouine, se glissa dans l'entrebâillement de la porte. Le régent fut un instant sans reconnaître Dubois tant il était bien déguisé, mais enfin ce nez pointu, qui n'avait pas son second dans le royaume, le trahit. L'expression d'une suprême hilarité remplaçait sur le visage du duc celle de l'étonnement qui avait apparu d'abord. « Comment, c'est toi l'abbé ?» dit son Altesse en éclatant de rire. « Et que signifie ce nouveau déguisement ?»« Cela signifie, monseigneur, que je change de peau. De renard, je me fais lion. Et maintenant, monsieur le chimiste, monsieur le secrétaire, faites-moi le plaisir, vous, d'aller empailler votre oiseau ailleurs, vous, d'aller achever votre lettre autre part. » « Pourquoi cela ?» demanda le régent. « Parce que j'ai à parler à votre Altesse d'affaires importantes. »« Va-t'en au diable avec tes affaires, l'heure est passée, tu reviendras demain, » dit le régent. « Monseigneur, reprit Dubois, ne voudrais pas m'exposer à rester jusqu'à demain sous cette vilaine enveloppe. Je n'aurai qu'à mourir subitement, fi donc, je ne m'en consolerai jamais. » « Arrange-toi comme tu voudras, j'ai décidé que le reste de la journée serait consacré au plaisir. »« Eh bien, cela tombe à merveille, je viens vous proposer à vous aussi un déguisement. »« Un déguisement, à moi? Que veux-tu dire, Dubois ?» continua le régent, qui crut qu'il était question d'une de ces mascarades ordinaires. « Ah, allons, vous avez l'eau à la bouche qui vous vient, monsieur Alain. »« Parle, qu'as-tu arrangé ?» « Renvoyez d'abord votre chimiste et votre secrétaire. »« Tu y tiens ?»« Absolument. »« Allons, puisque tu le veux. » Le régent congédia Humbert d'un geste amical et le secrétaire d'un signe de commandement, tous deux sortirent. « Et maintenant, voyons, dit le régent, que veux-tu ? » « Je veux vous présenter, monseigneur, un jeune homme qui arrive de Bretagne et qui m'est particulièrement recommandé. Un garçon charmant. »« Et comment l'appelles-tu ? » « Le chevalier Gaston de Chanlay. »« De Chanlay, reprit le régent en cherchant à rappeler ses souvenirs, ce nom ne m'est pas tout à fait inconnu. »« Vraiment ? » ?»« Non, il me semble l'avoir entendu prononcer autrefois, mais je ne me rappelle plus dans quelles circonstances. Que vient faire à Paris ton protégé ?»« Monseigneur, je ne veux pas vous ôter la surprise de la découverte. Il vous le dira tout à l'heure à vous-même, ce qu'il vient faire à Paris. »« Comment, à moi-même ? » « Oui, c'est-à-dire à son Excellence le duc d'Olivares, dont vous allez, s'il vous plaît, prendre la place. Ah, c'est un conspirateur fort discret que mon protégé, et bien m'en a pris, grâce à ma police, toujours la même, monseigneur qui vous a suivi à Rambouillet, bien m'en a pris, dis-je, d'être au courant des choses. Il était adressé à Paris par un certain La Jonquière, lequel devait le présenter à son Excellence le duc d'Olivares. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas ? Aucunement, je te l'avoue. Eh bien, j'ai été le capitaine La Jonquière, mais je ne puis pas être à la fois le capitaine La Jonquière et son Excellence. Et alors, tu as réservé ce rôle à vous, monseigneur. Ah, merci, ainsi tu veux qu'à l'aide d'un faux nom, je surprenne les secrets de vos ennemis, interrompit Dubois. Oh, mon cher, je ne demande pas mieux que de me déguiser quand cette plaisanterie doit me procurer une distraction quelconque. Mais vous déguisez, continua Dubois, pour conserver le repos à la France, pour empêcher les intrigants de bouleverser le royaume, pour empêcher les assassins de vous poignarder peut-être. Allons donc, la chose est indigne de vous. Je comprends cela. Ah, si c'était pour séduire cette petite quincaillère du Pont-Neuf ou cette jolie veuve de la rue Saint-Augustin, je ne dis pas, peste, cela en vaudrait la peine. Mais enfin, reprit le régent, voyons, si comme toujours je cède à ce que tu me demandes, qu'en résultera-t-il? Il en résultera que vous conviendrez peut-être à la fin que je ne suis pas un visionnaire et que vous permettrez alors qu'on veille sur vous, puisque vous ne voulez pas y veiller vous-même. Mais une fois pour toutes, si la chose n'en vaut pas la peine, serais-je délivré de tes obsessions? Sur l'honneur, je m'y engage. Et Dubois, qui craignait que le régent ne revînt sur sa décision encore mal consolidée, s'inclina et sortit. Il n'était pas encore depuis 5 minutes qu'un courrier entra précipitamment dans l'antichambre et remit une lettre à un page. Ce page le congédia et entra aussitôt chez le régent, qui, à la simple inspection de l'écriture, laissa échapper un mouvement de surprise. « Madame Desroches, dit-il, voyons, y a-t-il donc du nouveau ?» Et brisant précipitamment le cachet, il lut ce qui suit. « Monseigneur, la jeune dame que vous m'avez confiée ne me paraît pas en sûreté ici. » « Oh, bah !» s'écria le régent. « Le séjour de la ville, que votre Altesse redoutait pour elle, vaut 100 fois mieux que l'isolement, et je ne me sens pas la force de défendre comme je le voudrais, ou plutôt comme il le faudrait, la personne que votre Altesse m'a fait l'honneur de me confier. « Ouais, fit le régent, les choses s'embrouillent, ce me semble. » Un jeune homme qui avait déjà écrit hier à mademoiselle Hélène, un instant avant votre arrivée, s'est présenté ce matin au pavillon. Je l'ai voulu éconduire, mais mademoiselle m'a ordonné si péremptoirement d'obéir et de me retirer que, dans ce regard enflammé, dans ce geste de reine, j'ai reconnu, n'en déplaise à votre Altesse royale, le sang qui commande. Je crois, monseigneur, que ce jeune homme et mademoiselle se sont déjà vus. Je me suis permis d'écouter pour le service de votre Altesse et, malgré la double porte, à un moment où il haussait la voix, j'ai pu distinguer ces mots, vous voir comme par le passé. Que votre Altesse royale soit donc assez bonne pour me sauver du danger réel que court ma surveillance, et je la supplie de me transmettre un ordre positif, par écrit même, à l'abri duquel je puisse me retirer pendant les colères de mademoiselle. « Diable !» continua le régent, « voilà qui complique la situation. Déjà de l'amour ? Ben non, cela n'est pas possible. Élevé si sévèrement, si isolément, dans le seul couvent de France peut-être où les hommes ne passent jamais le parloir, dans une province où l'on dit l'air des mœurs si pur, non, c'est quelque aventure que ne comprend pas cette Desroches, habituée aux roueries de la cour et surexcitée si souvent par les espiègleries de mes autres filles. Mais voyons, que dit-elle encore ? Post-scriptum, je viens de faire prendre des informations à l'hôtel du Tigre Royal. Le jeune homme est arrivé hier à 7 heures du soir, c'est-à-dire 3 quarts d'heure avant mademoiselle. Il venait par la route de Bretagne, c'est-à-dire par le chemin qu'elle suivait. Il voyage sous le nom de Monsieur de Livry. « Oh !» fit le régent, « ceci devient plus dangereux, c'est tout un plan arrêté d'avance. Pardieu, Dubois rirait bien si je lui parlais de cette circonstance, comme il me retournerait mes dissertations sur la pureté des jeunes filles loin de Versailles ou de Paris. Il faut espérer que malgré sa police, le drôle ne saura rien de tout ceci. Oh la page !» Le page qui avait apporté la lettre rentra. Le duc écrivit à la hâte quelques lignes. « Le messager qui arrive de Rambouillet ? » demanda-t-il. « Attends la réponse, monseigneur, » répondit le jeune homme. « C'est bien, rendez-lui ce message et qu'il reparte à l'instant même. Allez !» Le courrier, un instant après, faisait retentir dans la cour les fers sonores de son cheval. Quant à Dubois, tout en préparant l'entrevue de Gaston avec la fausse excellence, il faisait in petto ce petit calcul. Je tiens le régent par lui-même et par sa fille. Cette intrigue de la jeune personne est sans conséquence ou sérieuse. Si elle l'est sans conséquence, je la brise en l'exagérant. Si elle est sérieuse, j'ai le mérite réel auprès du duc de l'avoir découverte. Et sur cette résolution, Dubois expédia un courrier très pressé à M. de Montaran, à Nantes. Nous avons déjà dit que M. de Montaran était l'ancien gouverneur de la Bretagne. Quant à Gaston, son parti était pris. Honteux d'avoir eu affaire à un homme de la trempe de la Jonquière et d'être placé vis-à-vis d'un pareil maraud dans une position subordonnée, il se félicitait de communiquer désormais avec le chef plus digne de l'entreprise, résolu, s'il trouvait dans ce rang la même bassesse et la même vénalité, à retourner à Nantes pour raconter à ses amis ce qu'il avait vu et leur demander ce qu'il devait faire. Gaston s'habilla avec soin. Il y a la coquetterie du plaisir et la coquetterie du danger. Il embellit sa jeunesse, si fraîche et si gracieuse déjà, de tout ce que le costume avantageux de l'époque pouvait donner d'attrait à un visage mâle encadré de beaux cheveux noirs. Sa jambe fine et nerveuse se dessinait sous la soie, ses épaules et sa poitrine jouaient à l'aise sous le velours, une plume blanche, après s'être arrondie sous la forme de son chapeau, retombait sur son épaule, et, en se regardant dans la glace, Gaston se sourit à lui-même et se trouva un conspirateur de fort bon air. De son côté, le régent avait, par le conseil de Dubois, pris un costume de velours noir et enseveli dans une vaste cravate de maline la moitié de son visage, que le jeune homme eût pu reconnaître d'après les portraits multipliés de l'époque. Quant à l'entrevue, elle devait avoir lieu dans une petite maison du faubourg Saint-Germain, qui était occupée par une de ses maîtresses et qui l'avait invitée à évacuer. Entre les deux corps de logis était un pavillon isolé, fermé complètement à la lumière et garni de lourdes tapisseries. C'est là que le régent, transporté dans une berline fermée qui sortit du palais royal par les derrières, arriva vers les 5 heures, c'est-à-dire à la nuit tombante. Gaston était resté dans la chambre du rez-de-chaussée et s'habillait comme nous l'avons dit, tandis que maître Tapin continuait de faire son apprentissage. Aussi, vers le soir, savait-il aussi bien mesurer une chopine que son prédécesseur, et mieux même, car il avait compris que dans les dédommagements qu'on paierait à maître Bourguignon, le gaspillage figurerait au compte. Il comprenait donc que moins on gaspillait, plus lui, Tapin, ferait de bénéfices. Aussi, la pratique du matin fut-elle très mal servie le soir, et se retira-t-elle fort mécontente. Une fois habillé, Gaston, pour achever de se fixer sur le caractère du capitaine La Jonquière, fit l'inventaire de sa bibliothèque. Elle se composait de 3 sortes de livres, livres obscènes, livres d'arithmétique, livres de théorie. Pendant que Gaston se livrait consciencieusement à cet inventaire appréciateur, un homme entra, introduit par Tapin, qui l'annonça, et le laissa aussitôt discrètement seul avec le chevalier. Aussitôt que la porte fut refermée, l'homme s'approcha de Gaston, lui annonça que le capitaine La Jonquière, ne pouvant pas venir, l'avait envoyé à sa place. Gaston lui demanda la preuve de cette mission. L'inconnu tira d'abord une lettre du capitaine, exactement dans les mêmes termes et de la même écriture que le spécimen qu'il avait entre les mains, puis après les lettres, la moitié de la pièce d'or. Gaston reconnut dès lors que c'était bien l'envoyé attendu et ne fit aucune difficulté de le suivre. Tous deux montèrent dans un carrosse exactement fermé, ce qui n'avait rien d'étonnant, vu le motif de la course. Gaston vit qu'il traversait la rivière au Pont-Neuf et qu'il descendait les quais. Mais une fois entré dans la rue du Bac, il ne vit plus rien, car au bout d'un instant, la voiture s'arrêta dans une cour, en face d'un pavillon. Alors, sans même que Gaston le demandât, son compagnon tira de sa poche le papier taillé sur lequel se trouvait le nom du chevalier, de sorte que si celui-ci eût conservé quelques doutes, ces doutes se fussent dissipés. La porte s'ouvrit, Gaston et son compagnon descendirent, montèrent les 4 marches d'un perron et se trouvèrent dans un vaste corridor circulaire, lequel enveloppait la seule pièce dont se composait le pavillon. Avant de soulever la portière qui masquait une des 2 entrées, Gaston se retourna pour chercher son guide, mais son guide avait déjà disparu. Le chevalier était resté seul. Une sonnette retentit au-dedans. Le bruit de cette sonnette fit frissonner Gaston. Il se regarda dans une glace et il était pâle. Il s'appuya contre le mur car ses genoux fléchissaient. Mille pensées qui ne lui étaient jamais venues l'assaillirent en ce moment. Le pauvre garçon n'était pas au bout de ses souffrances. La porte s'ouvrit et Gaston se retrouva devant un homme qu'il reconnut pour la Jonquière. « Encore, » murmura-t-il avec dépit. Mais le capitaine, malgré son œil vif et exercé, ne parut pas s'apercevoir du nuage qui obscurcissait le front du chevalier. « Venez, chevalier, lui dit-il, on nous attend. » Alors Gaston, rassuré par l'importance même de l'action qu'il entreprenait, s'avança d'un pas assez ferme sur le tapis qui assourdissait le bruit de ses pas. Il se fit l'effet d'une ombre comparaissant devant une autre ombre. En effet, muet et immobile, un homme, le dos tourné à la porte, un homme était assis, ou plutôt enseveli dans un vaste fauteuil. On n'entrevoyait que ses jambes croisées l'une sur l'autre. La lumière de la bougie unique, placée sur une table dans un candélabre de vermeil et recouverte d'un abat-jour, n'éclairait que la partie inférieure de son corps. La tête et les épaules, protégées par le jeu d'un écran, restaient dans la pénombre. Gaston trouva les traits franchement accusés et le visage noble. C'était un gentilhomme qui se connaissait en gens de race, et il comprit tout de suite que celui-là n'était pas un capitaine La Jonquière. Ah, « au moins voilà l'aigle, se dit-il, notre n'était que le corbeau, ou tout au plus le vautour. » Le capitaine La Jonquière se tint respectueusement debout en se faisant gros des hanches pour avoir l'attitude martiale. L'inconnu, après avoir regardé quelque temps Gaston, qui le saluait en silence, et cela avec la même attention que Gaston l'avait regardé lui-même, se leva et salua à son tour fort dignement de la tête et alla s'adosser à la cheminée. « Monsieur est la personne dont j'ai eu l'honneur de parler à votre excellence, » dit La Jonquière, « monsieur le chevalier Gaston de Chanlay. » L'inconnu s'inclina légèrement de nouveau, mais ne répondit pas. « Mordieu, » lui souffla tout bas du bois à l'oreille, « si vous ne lui parlez pas, il ne répondra rien. »« Monsieur arrive de Bretagne, je crois, » répondit froidement le duc. « Oui, monseigneur, mais que votre excellence daigne me pardonner. Monsieur le capitaine La Jonquière lui a dit mon nom, mais moi je n'ai pas encore l'honneur de savoir le sien. Excusez mon impolitesse, monseigneur, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est le pays qui m'envoie. « Vous avez raison, monsieur, » dit vivement La Jonquière, en tirant d'un portefeuille placé sur la table un papier au bas duquel s'étalait une large signature avec le sceau du roi d'Espagne. « Voici le nom, » dit-il. « Duc d'Olivarès, » lut Gaston. Et puis, se retournant vers celui qu'on lui présentait, sans remarquer la légère rougeur qui colorait ses joues, il s'inclina respectueusement. « Et maintenant, monsieur, » dit l'inconnu, « vous n'hésiterez plus à parler, je présume. » « Je croyais avoir à écouter d'abord, » répondit Gaston, se tenant encore sous la défensive. « C'est vrai, monsieur, toutefois c'est un dialogue que nous commençons, ne l'oubliez pas. Chacun parle à son tour dans une conversation. « Monseigneur, votre excellence me fait trop d'honneur et je vais lui donner l'exemple de la confiance. « J'écoute, monsieur. « Monseigneur, les états de Bretagne... « Les mécontents de Bretagne, » interrompit en souriant le régent, malgré un signe terrible de Dubois. « Les mécontents sont si nombreux, » reprit Gaston, « qu'ils doivent être regardés comme les représentants de la province. Cependant, j'emploierai la locution que m'indique votre excellence. Les mécontents de la Bretagne m'ont envoyé à vous, monseigneur, pour savoir les intentions de l'Espagne dans cette affaire. « Sachons d'abord celle de la Bretagne, » reprit le régent. « Monseigneur, l'Espagne peut compter sur nous, elle a notre parole, et la loyauté bretonne est proverbiale. Mais à quoi vous engagez-vous vis-à-vis de l'Espagne? À seconder de notre mieux les efforts de la noblesse française. Mais n'êtes-vous donc pas français vous-même? Monseigneur, nous sommes bretons. La Bretagne, réunie à la France par un traité, doit se regarder comme séparée d'elle du moment où la France ne respecte pas le droit qu'elle s'était réservé par ce traité. Oui, je sais, la vieille histoire du contrat d'Anne de Bretagne. Il y a bien longtemps que ce contrat a été signé, monsieur. Le faux La Jonquière poussa le régent de toute sa force. Qu'importe, dit Gaston, si chacun de nous le sait par cœur. Vous disiez donc alors que la noblesse bretonne était prête à seconder de son mieux la noblesse française. Et que veut la noblesse française? Substituer, en cas de mort de Sa Majesté, le roi d'Espagne au trône de France comme seul et unique héritier de Louis XIV. Bien, très bien, dit la Jonquière en fourrant ses doigts jusqu'à la première phalange dans une tabatière de cornes et en prisant avec une évidente satisfaction. Mais enfin, reprit le régent, vous parlez de toutes ces choses comme si le roi était mort, et le roi ne l'est pas. Monsieur le grand dauphin, monsieur le duc de Bourgogne, madame la duchesse de Bourgogne et leurs enfants ont disparu d'une façon bien déplorable. Le régent pâlit de colère. Dubois se mit à tousser. On compte donc sur la mort du roi? Demanda le duc. Généralement, monseigneur, répondit le chevalier. Alors cela explique comment le roi d'Espagne espère, malgré la renonciation de ses droits, monter sur le trône de France, n'est-il pas vrai, monsieur? Mais parmi les gens qui sont attachés à la régence, il pense trouver quelque opposition à ses projets. Le faux espagnol l'appuya involontairement sur ces mots. Aussi, monseigneur, répondit le chevalier, on a prévu le cas. Ah, fit Dubois, ah, on l'a prévu, le cas. Très bien, fort bien. Quand je vous disais, monseigneur, que nos Bretons étaient des hommes précieux, continuez, continuez. Malgré l'invitation encourageante de Dubois, Gaston garda le silence. Eh bien, monsieur, dit le duc, dont la curiosité s'excitait malgré lui, vous le voyez, j'écoute. Ce secret n'est pas le mien, monseigneur, répondit le chevalier. Alors, dit le duc, je n'ai pas la confiance de vos chefs. Au contraire, monseigneur, mais vous seul l'avez. Je vous comprends, monsieur, mais le capitaine est de nos amis, et je vous réponds de lui comme de moi. Mes instructions, monseigneur, portent que je ne m'en ouvrirai qu'à vous seul. Mais, monsieur, je vous ai déjà dit que je répondais du capitaine. En ce cas, reprit Gaston en s'inclinant, j'ai dit à monseigneur tout ce que j'avais à lui dire. Oh, vous entendez, capitaine, dit le régent, veuillez donc nous laisser seuls. Oui, monseigneur, répondit Dubois, mais avant de vous quitter, moi aussi j'aurai deux mots à vous dire. Gaston se recula de deux pas par discrétion. Monseigneur, lui dit tout bas Dubois, poussez-le, mordieu, tirez-lui toute l'affaire des entrailles, vous n'aurez jamais occasion pareille. Eh bien, qu'en dites-vous de votre Breton? Il est gentil, n'est-ce pas? Un charmant garçon, dit le régent, l'air tout à fait gentilhomme, les yeux pleins de fermeté et d'intelligence, à la fois, une tête fine. On la coupera d'autant mieux, marronna Dubois en se grattant le nez. Monsieur, dit le régent, lorsque Dubois eut fermé la porte, nous voilà seuls, je vous écoute. Monseigneur, vous me comblez, dit Chanlay. Parlez, monsieur, reprit le régent, puis il ajouta en souriant, vous devez comprendre mon impatience, n'est-ce pas? Oui, monseigneur, car votre excellence est sans doute étonnée de ne point encore avoir reçu d'Espagne certaines dépêches que vous devait adresser le cardinal Alberoni. C'est vrai, monsieur, répondit le régent, faisant un effort pour mentir, mais emporté par la situation. Je vais vous donner l'explication de ce retard, monseigneur. Le chevalier qui devait apporter cette dépêche est tombé malade et n'a pas quitté Madrid. Le baron de Valef, mon ami, qui d'occasion se trouvait en Espagne, s'est alors offert. On a hésité quelques jours, enfin, comme on le connaissait pour un homme déjà éprouvé dans la conspiration de Cellamare, et on la lui a confiée. Je dois la remettre d'abord à votre excellence, et la voici. Ah, c'est juste. Le régent prit la lettre, mais au moment de la décacheter, voyant qu'elle était adressée à son excellence le duc d'Olivares, il la posa sur la table sans l'ouvrir. Chose étrange, et ce même homme brisait parfois, pour son espionnage des postes, 200 cachets par jour. Il est vrai qu'alors il était avec Thoré ou Dubois, et non avec le chevalier de Chanlay. « Eh bien, monseigneur, dit Chanlay, ne comprenant rien à l'hésitation du duc. « Vous savez sans doute ce que contient cette dépêche, monsieur, » demanda le régent. « Peut-être pas mot pour mot, monseigneur, mais je sais ce qui a été convenu, du moins. » « Voyons, dites, je suis bien aise de savoir jusqu'à quel point vous êtes initié au secret du cabinet espagnol. »« Lorsqu'on se sera défait du régent, » dit Gaston, sans voir le léger tressaillement qui à ses paroles agita son interlocuteur, « on fera provisoirement reconnaître le duc du Maine à sa place. Monsieur le duc du Maine rompra à l'instant même le traité de la quadruple alliance signé par ce misérable Dubois. « Oh, je suis vraiment fâché, interrompit le régent, que le capitaine La Jonquière ne soit plus là. Il aurait eu plaisir à vous entendre parler ainsi. Continuez, monsieur, continuez. » On jettera le prétendant avec une flotte sur les côtes d'Angleterre, on mettra la Prusse, la Suède et la Russie aux prises avec la Hollande, l'Empire profitera de la lutte pour reprendre Naples et la Sicile, auxquelles il a des droits par la maison de Souabe. On assurera le grand-duché de Toscane, prêt à rester sans maître par l'extinction des Médicis au second fils du roi d'Espagne. On réunira les Pays-Bas catholiques à la France, on donnera la Sardaigne au duc de Savoie, Comacchio au pape. On fera de la France l'âme de la Grande Ligue du Midi contre le Nord, et si Sa Majesté Louis XV vient à mourir, on couronnera Philippe V, roi de la moitié du monde. « Oui, monsieur, je sais tout cela, dit le régent, fait c'est le plan de la conspiration de Cellamare et remis à neuf, mais il y a dans ce que vous m'avez dit d'abord une phrase que je ne comprends pas très bien. » « Laquelle, monseigneur ?» demanda Gaston. « Celle-ci, l'on se défera du régent. Et comment s'en défera-t-on, monsieur ?»« L'ancien plan, vous le savez, monseigneur, avait été de l'enlever et de le transporter dans la prison de Saragosse ou dans la forteresse de Tolède. »« Oui, le plan a échoué par la surveillance du duc. » Mais ce plan était impraticable. Mille obstacles s'opposaient à ce que le duc arrivât à Tolède ou à Saragosse. Le moyen, je vous le demande, de faire traverser la France dans sa plus grande largeur à un pareil prisonnier. C'était difficile, dit le duc aussi, je n'ai jamais compris qu'un pareil moyen eût été adopté. Tandis qu'au contraire, continua le chevalier, en se défaisant du régent, « Oui, l'on prévient son retour. On s'échappe d'une prison, on s'évade d'une forteresse, mais on ne sort pas d'une tombe. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas ?»« Oui, monseigneur, répondit Gaston avec un léger tremblement dans la voix. « Alors je comprends maintenant le but de votre mission. Vous êtes venu à Paris pour vous défaire du régent. »« Oui, monseigneur. »« En le tuant. »« Oui, monseigneur. » « Et c'est vous, monsieur, continua le régent en fixant ce regard profond sur le jeune homme, qui vous êtes offert de vous-même pour cette sanglante mission ?»« Non, monseigneur, jamais de moi-même je n'eusse choisi le rôle d'un assassin. »« Mais qui vous a forcé de jouer ce rôle, alors ?»« La fatalité, monseigneur. »« Expliquez-vous, monsieur. » Nous formions un comité de 5 gentilshommes associés à la Ligue bretonne, ligue partielle au milieu de la grande association, et il avait été convenu entre nous que tout ce que nous ferions se déciderait à la majorité. « Je comprends, dit le duc, et la majorité a décidé qu'on assassinerait le régent. » « C'est cela, monseigneur, 4 furent pour l'assassinat, 1 seul fut contre. » « Et celui qui fut contre ? Demanda le duc. Dussé-je perdre la confiance de votre excellence, monseigneur, c'était moi. Mais alors, monsieur, comment vous êtes-vous chargé d'accomplir un dessein que vous désapprouviez? Il avait été décidé que le sort désignerait celui qui devait porter le coup. Et le sort tomba sur moi, monseigneur. Comment n'avez-vous pas récusé cette mission? Le scrutin était secret. Nul ne connaissait mon vote, on m'eût pris pour un lâche. « Et vous êtes venu à Paris dans le but qui m'est imposé. Comptant sur moi, comme sur un ennemi du régent, pour m'aider à accomplir une entreprise qui non seulement touche si profondément aux intérêts de l'Espagne, mais encore qui sauve nos amis de la Bastille. Court-il de si grands dangers que vous le croyez ? La mort plane au-dessus d'eux, le régent a des preuves, et il a dit de monsieur de Richelieu qu'eût-il 4 têtes, il avait entre les mains de quoi les lui faire couper. Il a dit cela dans un moment de colère. Comment, monseigneur, c'est vous qui défendez le duc? C'est vous qui tremblez quand un homme se dévoue pour les saluts non seulement de ses complices, mais encore de 2 royaumes? C'est vous qui hésitez à accepter ce dévouement? Si vous échouez dans cette entreprise, toute chose a son bon et son mauvais côté, monseigneur. Quand on n'a pas le bonheur d'être le sauveur de son pays, reste l'honneur d'être le martyr de sa cause. C'est bien, monsieur, reprit le régent, je songerai gravement, je vous le promets, à ce que vous venez de me dire. Mais cependant, à votre place, à ma place, je renoncerai à cette entreprise. Je voudrais pour beaucoup n'y être point entré, monseigneur, je l'avoue, car depuis que j'y suis entré, un grand changement s'est fait dans ma vie, mais j'y suis, il faut qu'elle s'accomplisse. Même quand je refuserai de vous seconder, dit le régent. Le comité breton a prévu cela, dit Gaston en souriant. Et il a décidé que l'on passerait outre. Ainsi, votre résolution est irrévocable, monseigneur. J'ai dit ce que je devais vous dire, reprit le régent. Maintenant, puisque vous le voulez à toute force, poursuivez donc votre entreprise. Monseigneur, dit Gaston, vous paraissez vouloir vous retirer. Avez-vous encore quelque chose à me dire? Aujourd'hui non, mais demain, après-demain, n'avez-vous pas l'intermédiaire du capitaine? En me faisant prévenir par lui, je vous recevrai quand il vous plaira. Monseigneur, dit Gaston, avec un accent de fermeté merveilleusement assorti, avec sa pose noble et digne, parlons franc, pas d'intermédiaire semblable à celui-là. Votre Excellence et moi, si fort séparés que nous nous trouvions par le rang et le mérite, sommes égaux du moins devant l'échafaud qui nous menace. L'avantage sur ce point est même à moi, car il est évident que je cours plus de danger que vous. Cependant, vous êtes maintenant, monseigneur, un conspirateur, comme monsieur le chevalier de Chanlay, avec cette différence que vous avez le droit, étant le chef, de voir tomber sa tête avant la vôtre. Qu'il me soit donc permis de traiter d'égal à égal avec votre Excellence et de la voir quand j'aurai besoin d'elle. » Le régent réfléchit un instant. « Écrivez donc poste restante à cette adresse, à monsieur André. Vous ajouterez l'heure à laquelle vous voudrez me parler, et je me trouverai ici. » « À la poste, reprit Gaston. Oui, vous comprenez, c'est un délai de 3 heures, voilà tout, pas davantage. À chaque levée, un homme à moi guette votre lettre et me la porte, s'il en trouve une. 3 heures après, vous vous présentez ici et tout est dit. » « Votre Excellence me parle bien à son aise, dit en riant Gaston, mais je ne sais même pas où je suis, je ne connais pas la rue, je ne sais pas le numéro de la maison, je suis venu de nuit, comment voulez-vous que je me retrouve ?»« Tenez, monseigneur, faisons mieux que cela. Vous m'avez demandé quelques heures pour réfléchir, prenez jusqu'à demain matin et demain à 11 heures, envoyez-moi chercher. Il faut que nous arrêtions bien fermement notre plan d'avance, afin que notre plan ne manque pas, comme ceux de ces conspirateurs de carrefour, dont une voiture mise en travers ou une pluie qui tombe dérange les poignards ou éteint la poudre. Eh bien, cela est pensé à merveille, dit le régent. Demain donc, monsieur de Chanlay, ici, vers 11 heures, on ira vous prendre chez vous, et nous n'aurons plus dès lors de secret l'un pour l'autre. « Votre Excellence daigne-t-elle agréer mes respects ?» dit Gaston en s'inclinant. « Adieu, monsieur, lui dit le régent en lui rendant son salut. » Le régent congédia Gaston, qui retrouva dans l'antichambre le guide qu'il avait amené.